d'ailleurs. Et il y avait aussi une autre dame dont le mari avait le cancer des intestins, mais qui était à la maison. J'en reviens, à la maison. Et quand la deuxième dame qui avait le mari avec le cancer à la maison a entendu cette parole, elle a dit, ça c'est, je prends pour mon mari. Puis après elle a dit, Seigneur, mais il n'est pas là. Mais je le prends quand même. Et puis elle est rentrée à la maison, elle en a fait un sujet de prière. Elle a dit au Seigneur, Seigneur, je sais que mon mari ne va pas prendre cette parole si c'est moi qui l'a dit. Alors Seigneur, fais que ce soir, c'était le deuxième soir et le dernier soir où on était dans l'église, nous, fais que ce soir, la sœur Dorothée répète la même parole. Et vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude de répéter deux fois les mêmes paroles, sauf sur ordre du Seigneur. Alors, dans mon temps de préparation à la maison, avant la réunion, parce qu'il faut que je me prépare beaucoup hein, pour ce que j'ai à dire, beaucoup, moi-même dans la méditation, dans la prière, autant que pour les messages, pareil, c'est pareil. Et donc, dans mon temps de recueillement devant le Seigneur me dit, tu dois répéter telle parole. Est-ce que je savais la prière que la sœur avait faite à la maison? Il y avait que le Seigneur qui savait. Vous voyez comme le Seigneur communique à l'un et à l'autre sa pensée. Ah, c'est merveilleux. Et donc, le soir arrive, le deuxième soir, et puis je donne ma liste de personnes guéries, de paroles de connaissance. Et puis, j'ai arrêté et j'ai oublié. Eh bien, j'étais retournée à ma place et le Seigneur me dit, t'as oublié. Même il intervient à nos pertes de mémoire. Le Seigneur est glorieux. Alléluia. Et puis donc, je suis remontée, j'ai dit, excusez pasteur, j'ai encore quelque chose à dire. Le Seigneur me fait répéter la parole que j'ai dite hier soir. C'est de la guérison du cancer des intestins. Et puis il s'est trouvé que, cette fois-là, le monsieur était là. Donc il a pu prendre cette parole pour lui. Et il a été touché par le Seigneur, il a été guéri par le Seigneur, si bien que il était en traitement, en chimiothérapie, il devait lui ouvrir, donc il lui devait l'opérer et il devait lui mettre un sac pour commencer. Mais il était condamné en fait, hein, il était condamné, mais voilà ce que les médecins avaient décidé. Mais ce que le Seigneur lui a décidé, c'était autre chose. C'est merveilleux. Alors, notre homme, les médecins ont décidé de l'opérer quand même parce qu'ils ne pouvaient pas croire. Ils ne pouvaient pas croire. Alors, ils ont ouvert et il n'y avait plus rien, ils ont fermé. Alléluia, Seigneur! Parce que le divin chirurgien était intervenu lui-même. Alléluia! Alléluia! Parce que notre divin chirurgien est le médecin des médecins et le professeur des professeurs. Il est le Dieu omniscient, omnipotent. Alléluia! Et c'est lui que nous acclamons. Et c'est en lui que nous croyons. Et c'est lui que nous célébrons au travers de tous ces miracles. Et bien sûr, on n'a pas pu raconter juste quelques bribes de ce que le Seigneur a fait. Mais c'est suffisant pour quand même glorifier le Seigneur dans ce jubilé des 30 ans. Alléluia, de compassion. Merci Seigneur pour sa grâce qui est suffisante. Alors maintenant, je vous invite à vous lever et vous allez prier pour tous ceux que vous avez à cœur. Ensemble, on va prier pour ceux que vous avez vraiment fortement à cœur devant le Seigneur. Et nous allons tous apporter ce que nous avons à cœur. Parce que nous croyons en ce Dieu omniscient, omnipotent, et qui peut intervenir partout où il veut. Alléluia, nos familles, nos enfants, je ne sais, un ami, une sœur, un frère, dans la chair ou dans l'esprit ou dans le Seigneur. Oh Seigneur, nous sommes devant toi. Chacun peut prier à sa place. Seigneur, merci. Je t'apporte, et puis vous dites dans votre cœur, où vous voulez, comme vous voulez. Vous dites la personne ou les personnes. Alléluia, merci Seigneur, de ce que tu touches, ceux que j'ai à cœur, Seigneur. Et tu les connais, Seigneur. Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu vas sauver aussi les inconvertis de nos familles. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Sauve nos enfants. Sauve nos parents. Sauve nos frères et sœurs. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant que tu ne reviennes sur les nuées du ciel. Oh, Seigneur de gloire, les temps sont sérieux. Seigneur, nous t'apportons tous nos bien-aimés. Agis. Agis. Là où ils se trouvent. Va les toucher, Seigneur. Va les toucher là-bas. Seigneur, réveille-les la nuit. Empêche-les de dormir. Et que ton esprit de conviction de péché vienne sur eux. Et qu'ils ne puissent plus tenir dans leur vie de péché. Oh, merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Nous croyons. Nous croyons en tes promesses. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire, 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 gloire. Puissance à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Et le Seigneur m'a aussi dit de dire, donc, qu'il n'oublie personne. Hein? Deuxièmement, qu'il tient ses promesses. Amen. Alléluia. Nous voulons te louer parce que ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli. Seigneur, merci. Merci parce que tu es un Dieu de vérité. Tu ne saurais mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu as dit, ta bouche l'a accompli. Oh, c'est merveilleux d'avoir un Dieu comme toi, Seigneur. Nous voulons encore te dire, à nouveau te dire, Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons beaucoup, Seigneur. Reviens nous chercher, reviens chercher ton peuple, Seigneur. Et nous commençons à dire Maranatha. Maranatha, Seigneur. Bientôt il va revenir sur les nuées du ciel. Et tout œil s'est racheté, seront transportés en un clin d'œil auprès de lui. Les morts ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivons, nous irons les rejoindre. Oh, quelle gloire, quelle céleste gloire! Alléluia, alléluia! Dans la présence du roi, des rois et du Seigneur, des seigneurs. Écoutez, maintenant, je vais terminer avec cette glorieuse prophétie que le Seigneur m'a donné. Pour l'instant, je termine avec celle-ci, puis j'en ai encore une autre de glorieuse à dire après le message. De la part du Seigneur, elle m'a été donnée il y a une semaine, celle-ci. Alléluia. Mon peuple, dit le Seigneur, mes enfants, réalisez que vous n'êtes que pèlerins et voyageurs sur cette terre, et que votre destinée est ce ciel de gloire où je suis allé vous préparer une place, dit le Seigneur. Il nous a préparé une place, mais vous vous rendez compte, dans son ciel de gloire. Détournez vos yeux des choses de cette terre et fixez-les juste un instant sur cette cité glorieuse qui vous attend là-haut, la Jérusalem céleste, où je vous attends, dit le Seigneur, où vous serez constamment en ma présence. Cette cité où j'habiterai au milieu de mon peuple. Dans cette cité, chacune de vos larmes sera essuyée par ma propre main, dit le Seigneur. Toutes vos souffrances auront disparu. Dans ma cité céleste, dit le Seigneur, il n'y aura plus ni cri, ni douleur, ni séparation, ni mort, car toutes ces choses auront disparu. Et le Seigneur nous dit, je vous ai devant.
Il touchera 10. Et là, il en a touché 2. Et à la fin de la réunion, une dame est venue dire que c'était elle aussi. Sur le film, ça paraît aussi qui a été tourné. Et puis une autre dame, la deuxième dame, est venue, encore tout à la fin de la réunion, quand la réunion était terminée, dire... Moi aussi, j'ai été touchée par le Seigneur et j'avais des problèmes graves de glandes thyroïdes que je cherchais à résoudre depuis des années. Et je suis même allée jusqu'à Jérusalem, jusqu'en Israël, pour trouver la guérison du Seigneur.
Elle a donné cette précision-là.
Plusieurs fois, elle est allée à Jérusalem, en Israël, pour chercher la guérison auprès du Seigneur, parce que les médecins ne pouvaient plus faire, plus rien faire. Oh oui, ben oui, ben. Oh oui. Là-bas, oui, oui, c'était une dame qui était plutôt aisée, voilà. Et donc, elle a dit, et j'ai senti l'attouchement du Seigneur ce soir. C'est ce soir que j'ai été guérie. Et donc, après tout ça... Ah oui, voilà. Alors, c'est vrai.
Une bonne précision.
Oui, c'est une bonne précision. Donc, cette dame était censée ne pas venir à la réunion, parce que c'était une réunion uniquement pour les serviteurs et les servantes du Seigneur. Il y avait à peu près 1000 personnes. Et donc, elle, n'étant pas une servante du Seigneur, ne pouvait pas venir. Alors, elle avait reçu de la part du Seigneur la pensée qu'il fallait qu'elle demande pour venir à cette réunion. Elle ne savait pas pourquoi, mais que le Seigneur allait la toucher,
mais elle
avait à cœur d'y aller. Alors elle a supplié la femme du pasteur de la laisser venir. Et la femme du pasteur lui a dit, non, c'est pas pour toi, je suis désolée, mais là, ce soir, c'est pas pour toi. Et puis elle a tellement supplié la femme du pasteur que la femme du pasteur, pour finir, a dit, ben, d'accord, on fait une exception. Allez, viens, pour toi, on fait une exception. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée et puis qu'elle a été touchée par le Seigneur alors qu'elle est allée 3 fois à Jérusalem, traitée par les médecins, personne ne pouvait la guérir de ça. Mais le Seigneur lui avait donné rendez-vous ce jour-là. Alors, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je la protégerai puisqu'elle connaît mon nom. Elle m'invoquera et je lui répondrai. On peut aussi mettre « elle » à la place d'il. Et c'est merveilleux de voir comment le Seigneur parle aujourd'hui, agit aujourd'hui. Et confirme sa parole. Et puis, le dernier témoignage, c'était tellement saisissant aussi. La personne ne s'est pas même manifestée, mais je sais, je connais la personne, la dame à laquelle cette prophétie s'adressait. C'était l'épouse d'un pasteur, d'un responsable, même de la réunion. Et le Seigneur m'a dit de dire... pour cette prophétie, pour sa servante. Et voici la prophétie que le Seigneur a donnée. Tu es l'épouse d'un serviteur de Dieu et tu es découragée, un peu fatiguée du ministère de ton mari qui exerce depuis des années. Aujourd'hui, je viens te dire que toi aussi, tu as du prix à mes yeux et que je t'aime et que je veux aussi t'utiliser. Prends courage. Je voudrais me servir de toi aussi. Consacre-moi ta propre vie et tu verras que je pourrai faire des choses étonnantes aux côtés de ton mari. Tu en seras surprise au-delà de ce que tu peux penser. Et ça tombait certainement pile dans la vie de cette épouse de serviteur de Dieu, découragée, parce que être l'épouse d'un serviteur de Dieu, c'est pas toujours facile. Et combien d'épouses, de serviteurs crient au Seigneur, invoquent le Seigneur, et sont parfois dans la détresse, et elles ne peuvent s'ouvrir quasiment à personne qu'au Seigneur.
Et là, après, ils nous ont invités
à manger, et puis c'était évident.
Elle a montré
que c'était pour elle. Ouais, que c'était pour
très
elle.
Touchée,
très touchée.
Et son mari aussi était touché.
Oui.
Ils
n'ont pas directement dit la chose, mais ils nous l'ont fait
sentir
que c'était était pour elle. Mm-hmm. Oui, c'était très touchant. Oui, vraiment. Et nous voulons.
C'était le pasteur principal qui nous a reçus et accueillis pendant toute la semaine.
Oui. Et c'était sa femme.
Enfin, le pasteur assistant, le pasteur principal, il était absent.
Alors le Seigneur peut nous envoyer du bout de la terre. C'était la seule fois où on est allé en Arménie. Pour aller encourager la femme d'un serviteur. C'est, ça aussi, je trouve très, très touchant. Combien le Seigneur nous... Oh oui. Sauver cette vie-là. Sauver l'autre avec ses pierres. Sauver l'autre avec la glande thyroïde. Il y en avait d'autres. Il y avait d'autres. J'en dis que quelques-uns, voilà. Mais il y en a eu d'autres, bien sûr. Il y a aussi une parole qui a été donnée que des personnes avaient une douleur dans les pieds. Qui montait jusque dans la jambe Et il y a 3 dames qui sont venues pour cette parole-là. 3, ce jour-là. Alors, c'est merveilleux. Le Seigneur n'est pas limité. Et nous voulons le bénir parce que si nous l'invoquons, nous pouvons compter sur lui. Il nous répond. Il n'est pas insensible. Puisqu'il m'aime, il est touché par notre amour. Si nous aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, il est très touché par cela et il ne nous laissera jamais. Et on ne se trompera jamais de lui dire souvent, Seigneur, je t'aime. On est bien exhorté à le dire à notre conjoint, à notre mari, à notre femme, je t'aime, parce qu'on n'est pas censé le deviner que l'autre nous aime. Eh bien, je pense que le Seigneur, il aime aussi l'entendre. Et qu'on peut aussi le dire au Seigneur. Alors nous voulons bénir le Seigneur ensemble pour toutes ces interventions miraculeuses qu'il nous a accordées durant notre voyage en Arménie, sa compassion, son amour infini à l'égard de chacun. Et Seigneur, tu interviens tellement toujours au bon moment. Tu veux encore nous dire, nous rappeler ce matin que nous pouvons te faire confiance et aller de l'avant, sachant que tu es notre berger, notre ami, notre père. Et que tu nous aimes d'un tendre amour. Sois loué, sois béni. Et nous voulons te répéter encore une fois, nous aussi. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur. Amen.
C'est vrai, Seigneur, ta compassion est grande. Et nous ne pouvons que te louer de tout notre cœur. Ta parole nous dit que tu étais ému de compassion et tu guérissais les malades. Seigneur, nous voulons que cette compassion grandisse en nous, en moi, davantage encore, pour pouvoir bénir tous ceux que tu nous envoies. Seigneur, la misère, la souffrance est tellement grande,
c'est vrai.
Et qui va en grandissant.
Encore, oui.
Seigneur, il nous faut une compassion toujours plus grande aussi, pour aider ceux dont la misère est grande.
Mm-hmm.
Aide-nous, aide-moi, Seigneur, nous voulons mm-hmm. toujours être plus disponibles entre tes mains
mm-hmm.
pour faire ta volonté. Mm-hmm. Merci encore pour tout ce que tu as fait là-bas, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous voulons t'en donner toute la gloire.
Mm-hmm.
Merci, Seigneur. Et merci pour ta parole, merci pour ta présence ce matin.
Merci.
Nous aimons ta présence,
oh, oui, Seigneur, oui.
Nous apprécions ta présence. Mm-hmm. Et tu veux aussi nous parler quand tu es présent,
oui.
Tu agis.
Mm-hmm.
Ce n'est pas une présence vide,
non.
Sans but.
Non, c'est ça.
C'est une présence qui amène à un but. Merci, Seigneur, qui veut nous parler aussi.
Amen, Seigneur.
Car tu n'es pas un Dieu muet, tu es un Dieu qui parle.
Amen.
Merci, et tu nous parles toujours par ta parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Qu'il en soit ainsi ce matin. Tu connais nos besoins et les besoins de ceux qui écouteront ce message. Seigneur, inspire selon les besoins. Que ton Esprit Saint soit là pour m'inspirer, me donner les pensées, les paroles qu'il faut. Illumine aussi les saintes Écritures, que nous puissions comprendre ce que nous n'avons pas compris, et obéir surtout quand tu nous parles. Car tu ne nous parles pas pour augmenter notre connaissance, mais pour augmenter notre obéissance. Merci Seigneur. Instruis-nous. Éclaire-nous, aide-nous par ton Esprit Saint à comprendre ce que tu veux nous dire. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Nous vivons des temps particulièrement prophétiques et on le réalise tous. Il n'y a pas un jour où, sans un événement particulier dans ce monde, pas un jour sans une catastrophe, un accident, mais des choses graves, des événements qui bouleversent une nation. Et au sein de tout cela, quelle doit être l'attitude du chrétien? Souvent, nous avons cette expression, le Seigneur est à la porte. Quand nous voyons ces choses, nous disons, mais le Seigneur est à la porte, le Seigneur est proche. Et en ayant cette expression dans la bouche, il nous faut savoir quelle attitude avoir au sein de cette situation-là. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, au sein de cette situation prophétique des temps de la fin que nous vivons, le chrétien doit particulièrement avoir cette attitude, qui sont en rapport avec justement des passages qui nous parlent de la proximité du Seigneur, du retour du Seigneur. Chaque fois, il y a une pensée précise. Ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur, on n'est pas comme dans le monde, qui n'ont pas d'espérance. Paul, bien souvent, lui dit, mais vous n'êtes pas comme dans le monde, vous n'êtes pas comme ceux du monde, vous n'êtes pas dans l'ignorance. Vous avez une espérance. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Et là, dans ces passages que nous allons voir, il y a une pensée bien précise. On ne va pas trop s'attarder sur tout, bien sûr, parce qu'on pourrait faire un message sur chaque verset que nous allons lire. Mais en tout cas, une pensée. Quelle doit être notre attitude dans cette fin des temps où le monde est en ébullition, où tout dégénère, où l'on fait beaucoup de promesses, mais l'on sait qu'aucune promesse ne sera tenue. Mais s'il y a une chose qui se réalisera, ce sont bien les prophéties du Seigneur et les prophéties concernant la fin des temps. Et le Seigneur nous demande d'être non pas comme dans le monde, parce que si on ne fait pas attention, on peut réagir comme le monde. On peut être chrétien et cependant agir comme le monde.
S'affoler.
S'affoler. Être plein de doutes, de craintes. Et perdre les pédales, comme on dit. Si on ne fait pas attention, on est là, chrétien, mais réagissant comme dans le monde. Et une telle attitude, bien sûr, déshonore le Seigneur, parce qu'il nous a donné des armes, il nous a équipés, il nous a formés. Et nous sommes dans ce monde pour être une lumière, pour être la lumière, pour être le sel. Et non pas pour être comme les autres en train de nous affoler. Donc il est très important. La situation du monde, il rend s'aggravant. Ceux qui prédisent un réveil mondial se font beaucoup d'illusions. Et malheureusement, il y a tant de grands prédicateurs, des apôtres et autres. Ils impressionnent les chrétiens par des prophéties extraordinaires qu'il y aura un réveil qu'on n'aura jamais vu, qui sera exceptionnel. Malheureusement, là où ils se trompent, c'est qu'ils prennent bien souvent les prophéties concernant Israël, ils les appliquent à l'Église. Il y aura un retour d'Israël dans le pays, c'est déjà là, et il y aura un réveil. Mais quant à l'Église, l'Église, elle doit vivre sa vie normalement, elle évangélisera. Et si on prêche la parole, Dieu la confirme, et on peut vivre une vie de l'esprit normale. Mais quant à un réveil mondial, ça c'est... Le Nouveau Testament n'en parle pas. Le Nouveau Testament parle plutôt d'une apostasie mondiale, pas d'un réveil. Et parce que beaucoup de serviteurs de Dieu et de chrétiens ne font pas cette différence-là, ils vivent dans l'illusion des événements de la fin des temps. Alors les uns, ils se découragent complètement en disant, voyez, là, avec tout ce qui se passe, c'est fini. Hein? Ils perdent courage, ils plongent complètement. Ils font la déprime. Oh, ben vous savez, c'est pas facile. Hein? Alors, on parle comme le monde. Ou alors, on est plein d'euphorie, on a une fausse conception des choses. On dit, mais vous verrez, il y aura un réveil. Mais ça fait plus de 40 ans que j'entends parler de ce réveil. Et il est toujours pas là. Et alors, pour se consoler, vous savez ce qu'on fait? Certains voient quelque chose qui se passe un peu dans un pays, ils disent, voilà, le réveil est là. Et ils grossissent les événements pour leur intérêt personnel et pour dire, ben voyez-vous, ce qu'on a dit, c'est vrai, ça se passe. Mais quand vous allez gratter un petit peu, eh bien, beaucoup de choses ne sont pas comme ils le disent. On exagère, on dit des choses qui ne sont pas réelles. Et tout ça parce qu'on est imprégné, imbibé de cette vision d'un réveil mondial, et partout ça bouge un petit peu, dire voyez, ça y est, ça bouge, c'est le réveil, c'est ça, et voilà. Et puis finalement, c'est des réveils qui durent un jour, deux jours, et puis il n'y a plus rien du tout. Donc, il nous faut être lucides. Et concernant le retour du Seigneur, la proximité des événements de la fin du temps, il nous faut être lucides. Et avoir en tout cas cette attitude précise. La première, nous allons la voir dans 2 Pierre 3, 14. 2 Pierre 3,14, c'est l'apôtre Pierre, bien sûr, qui parle. Et puis, juste un peu plus haut, dans les premiers versets, au verset 2 du chapitre 3, il leur dit qu'il essaye d'éveiller par des avertissements une saine intelligence et que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, voyez-vous, et du commandement du Seigneur enseigné par les apôtres, sachant que avant tout, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Vous voyez, à la fin des temps, il y a des gens et même des chrétiens qui se moquent du retour du Seigneur. Ils disent c'est pas maintenant le retour du Seigneur. Et ils s'en moquent, ils veulent l'ignorer. Enfin, il y a tous ces passages-là. Donc, on se moque du retour du Seigneur. Et ensuite, au verset 8, il dit, mais il y a une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est qu'un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Voilà, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Oui, alors il raconte tout ça, il dit tout ça, mais alors, après, au verset 11, il dit, mais puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant et attend l'avènement du jour du Seigneur, du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront. Voilà, là, il y a les jugements qui viennent aussi. Et après avoir dit cela, au verset 14, il dit, c'est pourquoi. Oui, je vous ai lu ces quelques versets parce que si on prend ce verset comme ça, on ne sait pas très bien pourquoi l'apôtre dit ça. C'est pourquoi, après avoir dit tout ça, c'est pourquoi, bien-aimé, en attendant ces choses, voilà, vous voyez, on parle du retour là, en attendant ces choses, la fin des temps, le retour du Seigneur, donc c'est un texte qui concerne la proximité du Seigneur, appliquez-vous à être trouvé par lui, sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Soulignez le verbe ici, appliquez-vous, l'expression appliquez-vous. Et nous allons trouver là la première attitude du chrétien dans ces circonstances difficiles et prophétiques de la fin des temps. Appliquez-vous. Le mot appliquez-vous dans le grec, c'est un peu soyez diligent. Il y a une question de diligence. Et j'ai regardé, le mot diligent veut dire c'est une promptitude dans l'exécution d'une tâche. Dans le thème mot grec, il y a un empressement, un zèle, à faire ce que Dieu nous demande. Donc dans ces temps de la fin, où beaucoup de gens sont déprimés, même des chrétiens, s'ils ne font pas attention, et d'autres seront emportés dans des doctrines étrangères, Pierre leur dit un petit peu, vous devez soyez diligent, donc sois empressé. Qu'il y a un empressement dans ta vie, un zèle, pourquoi? Eh bien, pourquoi? Au verset 8, il le dit, « Une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. » Donc, un zèle pour gagner des âmes. Au sein de cette confusion, soyez diligents, qu'il y ait un empressement, un zèle. Alors qu'on raconte beaucoup de choses autour de vous, vous, eh bien, vous devez garder à l'esprit que le Seigneur va revenir et que s'il tarde, eh bien, c'est parce qu'il veut que les gens se repentent, se convertissent. Voilà. Alors, si nous vivons ces temps-là, c'est pas pour avoir la politique de l'autruche. Oh là là, c'est grave et tout ça, c'est vrai en effet. Et puis mettre la tête dans le sable et puis alors attendre. Non, c'est pas comme ça. Le Seigneur ne nous dit pas d'attendre la tête dans le sable. Au contraire, il nous dit de bien regarder, d'être conscient des circonstances, des événements dans lesquels nous sommes. Et s'il tarde, c'est pas parce qu'il ne veut pas, il a menti ou il ne veut pas venir, mais c'est parce qu'il veut que d'autres âmes soient encore sauvées. Donc sois diligent. Et le mot, il y a donc promptitude dans l'exécution d'une tâche. Il faut que nous ne perdons pas cet amour des âmes. Soit personnellement, soit en équipe. On est là, ensemble, en équipe.
Et par le ministère que Dieu nous a donné, par la grâce de Dieu, nous sauvons des âmes. Par la grâce de Dieu. Alors, nous pourrons le faire individuellement, et nous le faisons aussi collectivement. Et il nous faut garder ça. Il nous faut, dans ces temps de la fin, c'est ce qui nous tient. Si nous allons là-bas, c'est encore pour ça. Si nous allons dans d'autres pays, c'est encore à cause de l'amour des âmes. S'il n'y a pas ça, on ne fait plus rien du tout. Sois diligent. Il faut qu'on garde ce zèle, alors que beaucoup perdent les pédales, alors que beaucoup dévient, alors que beaucoup sont découragés. Nous, on doit être là comme le sel sur la terre et la lumière du monde. Voilà. Il ne faut pas que les autres déteignent sur nous. C'est à nous à déteindre sur les autres. C'est tragique quand un chrétien est constamment influencé par le monde. C'est une tragédie. C'est un triste chrétien. Nous devons au contraire, nous, influencer les autres. Voilà. Sois diligent. Ne perdons pas notre flamme. Il y a la pensée ici d'une flamme, d'un zèle. À cause de... S'il tarde le Seigneur, c'est pas parce qu'il a oublié sa parole, comme les autres disent. Mais voyez-vous, ça fait 2000 ans que vous dites qu'il est venu, et puis il n'est pas venu. Alors, il ne faut pas qu'on se joigne à ces gens-là pour dire, « Oh, en effet, le Seigneur n'est pas venu. » Et puis alors, comme dans une autre parabole, comme ils voient que le Seigneur ne vient pas, ils font n'importe quoi. Voilà, ils se laissent aller à faire n'importe quoi. Alors, on sait qui va venir. Et s'il attend... C'est parce qu'il attend que nous, on fasse notre part. Et donc, le salut des âmes, c'est un point important. Un deuxième point, nous allons trouver cette deuxième vérité dans Marc 13, 33. Donc on prend ces versets, comme je vous l'ai dit, toujours en rapport avec le retour du Seigneur, la proximité du Seigneur. Marc 13, 33, c'est des passages que vous connaissez, mais il est bon de se les rappeler. Au verset 32 déjà, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Si on peut lire encore un peu plus loin, juste pour avoir le contexte. « Il en sera comme d'un homme qui, partant d'un voyage, laisse à sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je le dis à tous, veillez. » Alors, vous voyez, ici, il est clairement question du retour du Seigneur, de la proximité du Seigneur. Alors, verset 33, « Prenez garde, veillez et priez. » Alors, la deuxième attitude, c'est « Sois vigilant. » Sois vigilant. Et dans le texte grec, « prenez garde, veillez », c'est un impératif présent, c'est tout au présent. Soyez continuellement sur vos gardes, soyez continuellement veillant et priant. C'est un impératif présent, c'est quelque chose. Et pourquoi ? Pourquoi on doit être constamment sur nos gardes ? Parce que, il le dit à plusieurs reprises, parce que vous ne savez pas quand votre maître va venir. Car vous ne savez quand ce temps viendra. Rien que ça, ça doit être pour nous un motif pour veiller. S'il venait aujourd'hui, est-ce que je suis prêt ? Nous devons constamment vivre comme s'il venait maintenant. Et ça, on ne doit pas l'oublier, surtout dans ces temps de la fin. Il nous faut avoir ce retour du Seigneur, un retour imminent. Il semble tarder d'un côté, mais il ne tarde pas. Ça, c'est ce que vous pensez. C'est sa compassion encore qui le fait attendre pour le salut des âmes. Et là maintenant, veillez, prenez garde. Ce que je vous dis, au verset 37, je le dis à tous. Donc il y a là, soyez vigilants. Combien on doit veiller ? C'est un impératif. Et parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Du temps de Noé, quand Noé entra dans l'arche, et ils entraient dans l'arche, et ils ne se rendaient absolument pas compte de ce qui allait se passer. Des événements qui se passent, les gens ne se rendent pas compte. Ils ne savent pas ce qui les attend.
C'est ça.
Il est là, ils vivent sur un volcan. Et ils ne savent pas.
Ils sont sur un volcan.
Mais nous le savons.
Oui.
Mais nous le savons. Et c'est pourquoi nous devons veiller. Et si je fais quelque chose qui déplaît au Seigneur, c'est souvent parce que je ne crois pas qu'il va venir à l'instant. Si on croit qu'il vient,
c'est vrai, ça.
À l'instant même, il y a beaucoup de choses qu'on éliminerait dans notre vie. Beaucoup de paroles, beaucoup de gestes, beaucoup d'attitudes, beaucoup de contacts même qui ne sont pas la gloire de Dieu. On éviterait. Si le Seigneur venait maintenant, dans quel état il me trouverait ? Tout cela, on le sait, mais il faut qu'on se le rappelle. Ce que je vous dis à tous. C'est important. Sois vigilant. Et c'est un impératif. Constant. Constant. On sait très bien que l'ennemi rôde comme un lion rugissant. Et combien de fois nous-mêmes, on l'a fait, on a fait expérience. Chaque fois qu'on n'a pas veillé dans quelque chose, pouf, on a fait un petit accident ou un petit quelque chose. Et voilà, et voilà, tout ça parce qu'on ne veille pas assez.
Attention.
On n'a pas fait assez attention. Il ne faut pas qu'on leur soit endormi comme ceux du monde. Le Seigneur attend de nous cette vie. Prenez garde. Veillez et priez. Car vous ne savez quand ce temps viendra. Veillez donc, voyez, encore une fois, il indique à chacun sa tâche. Il faut qu'on ait, on réalise qu'on a une tâche. Accomplissons notre tâche, quelle qu'elle soit. Ne méprisons pas notre tâche. C'est la tragédie sera la plus grande pour celui qui, le chrétien qui pense qu'il n'a rien à faire, qui est au chômage. Le chrétien qui est au chômage, il aura des surprises, je vous le dis. On ne peut pas être au chômage. Le Seigneur vous a donné un talent, il m'a donné un talent. Si on ne l'utilise pas, on va le perdre. Et quand on ne fait rien, vous savez bien, un roi, un jour, hein, il n'a rien fait. Au lieu d'aller à la bataille, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait besoin de détendre un petit peu. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est ce jour-là qu'il y a eu la plus grande catastrophe de sa vie et qui a amené le déshonneur, le malheur sur le nom de Dieu et toute la famille, sur tout Israël.
Tout un peuple.
Il y a eu un jugement, mais les conséquences étaient là. Et tout ça, parce qu'il est au chômage ce jour-là. Au chômage. Il nous faut être donc vigilants. Vigilants, parce qu'il peut venir à tout instant. Veillons, ça c'est un point très, très important. Ensuite, une troisième pensée, dans Jacques 5, 8, on peut lire à partir du verset 7. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première de la saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ici, l'attitude qu'on doit avoir, c'est la patience. Soyez patients, patients. Et puis, tout de suite, un peu après, il est parlé de... On peut lire un peu après. Parce que souvent, Jacques, c'est un prédicateur qui donne beaucoup d'images dans ses prédications, Jacques, quand on lit. Il illustre toujours bien ses messages. Et puis après, il dit, ne vous plaignez pas au verset 9, les uns les autres, à frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle, oui, de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Soyez patients. Dieu veut qu'on ait la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Nous, le diable veut nous dire, ben voilà, t'es avec Job, t'as toutes les souffrances de Job, toutes les difficultés de Job. Mais il arrête son commentaire là. Il va pas plus loin. Il va pas pour dire, oui, mais attention, il a eu la double bénédiction, le diable, il s'arrête là. Il dit, t'es malheureux comme Job, t'as des souffrances comme Job, tout le monde est contre toi, t'as des consolateurs de malheur, qui sont des conseillers de malheur, ils l'ont tous écrasé. Mais Dieu avait un but. Quand il nous dit, soyez patients, c'est pas pour redire encore une fois, bon ben, cessez de réfléchir, il n'y a plus rien à faire, il faut attendre. Non, c'est pas ça. Dans la patience que le Seigneur nous demande, il y a un but. Et le but, c'est de nous bénir doublement après. Comme pour Job, et Jacques leur dit bien, vous avez entendu parler de la patience et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Voilà, dans la patience de Dieu, il nous faut réaliser que finalement, ça finira bien. Ça finira bien, selon ses plans à lui, ça finira bien. Pas selon nos plans à nous. Mais selon ses plans à lui, ça finira bien. Et on ne pourra que dire, merci Seigneur, tu es merveilleux. Voilà. Tu fais tout à merveille. Vous n'allez pas finir en catastrophe. Vous n'allez pas finir dans une voie de garage. Ah, non, vous allez finir comme Job, avec une double bénédiction. Ça, quand il voudra, comme il voudra.
Voilà.
Si c'est pas ici-bas, ce sera là-haut.
Mais de toute manière.
De toute manière. Soyez patients, comme le laboureur attend les précieux fruits de la terre, il nous faut attendre. Et pendant ce temps-là, il attend pour produire des fruits. Il faut que ça produise en nous des fruits, justement, des fruits de patience. Et la patience ici, c'est la qualité de quelqu'un qui peut attendre longtemps sans irritation ni lassitude. C'est extraordinaire, ça. Qualité de quelqu'un qui peut attendre longtemps sans irritation ni lassitude. N'est-ce pas extraordinaire, ça?
La patience, c'est quelque chose.
C'est ça. Et puis alors, dans le mot grec, le mot patient, hypoméné, c'est un mot grec un peu spécial, qui veut dire, c'est la persévérance dans l'épreuve sans perdre la foi. La femme de Job, qu'est-ce qu'elle a dit? Maudit Dieu est mort! Allez, ça suffit maintenant! Elle a abandonné la foi dans son épreuve. Veillons à ne pas perdre notre foi en Dieu, en ses promesses, en son intégrité. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est toujours avec nous, mais jamais avec lui. Ah, mais je comprends. Mais tu n'as pas besoin de tout comprendre. Mais qu'est-ce qui t'a dit que tu devais tout comprendre? Ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. C'est parce que Dieu te demande. Fais confiance, confiance. Ah, mais je sais. Fais confiance, c'est tout ce que Dieu te demande. Sois patient. C'est la persévérance dans l'épreuve sans perdre sa foi en Dieu. Ça, c'est beau. C'est ça, hypoméné, la patience. C'est la persévérance envers et contre tout, avec une confiance dans le Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut forger en nous. Comme le laboureur attend les précieux fruits, eh bien, la patience, Dieu l'utilise pour produire ce fruit en nous. Ce fruit de persévérance, de confiance dans la... Qu'est-ce qu'on a lu? La miséricorde et la compassion de Dieu. La miséricorde. La miséricorde, j'avais lu une fois, c'est Dieu qui accorde à quelqu'un ce qu'il ne mérite pas. La grâce, c'est accorder à quelqu'un qui ne mérite pas. Et la miséricorde, c'est retenir le jugement que quelqu'un mérite. Oui, c'est ça, la miséricorde. C'est Dieu qui retient le jugement, un jugement qu'on mérite. Tandis que la grâce, c'est Dieu qui nous accorde une grâce que nous ne méritons pas. Des deux côtés, on est gagnant. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Alors ce fruit, ça doit germer en nous. Il ne faut pas que ça reste tout le temps vert. Quand on mange un fruit vert, c'est acide, c'est amer. Il ne faut pas que... Et souvent, ceux qui sont en contact avec nous, il ne faut pas qu'ils ressentent cette amertume. Il faut qu'ils mangent un fruit mûr. Oh, ça, il est bon. Ah, ce que tu m'as dit là, ce que tu as fait là, ça m'apporte quelque chose. Ça, c'est beau. Il ne faut pas qu'on donne du fruit vert aux autres. D'accord? Sois patient. Soyons patients. Et Dieu veut qu'on ait la patience de Job. Mais et vous avez vu aussi la fin. N'oubliez pas la fin. Le diable vous a enlevé cette fin-là. Mais le Seigneur, lui, vous la donnera à chacun d'entre nous. Soyons patients. Quatrièmement, 1 Jean 3:3, un autre passage en rapport avec le retour du Seigneur. On peut lire les trois premiers versets. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous sommes appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Écoutez bien, c'est important. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et le verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Vous voyez? Toujours en rapport avec le retour, la fin des temps. Donc, quatrième attitude, sois pur. Sois pur. Purifie-toi en vue de cet événement. Sois pur. Débarrasse-toi de toute impureté, de tout doute. 1 Jean 3:3. Débarrasse-toi de tout cela. Débarrassons-nous de toute impureté, de tout doute, de toute crainte. Et il ne faut pas que nous soyons constamment ces scories qui sont là. Il faut que ça disparaisse petit à petit de nos vies. Il ne faut pas que ce soit constamment là. Les mêmes problèmes qu'on n'arrive jamais à résoudre. Ce n'est pas normal. Qu'on ait des problèmes, oui, mais qu'on n'arrive pas à les résoudre, c'est cela qui n'est pas bien. Il faut qu'on arrive à résoudre nos problèmes. Et ne pas rester toujours pendant des années sur un même problème. Ce n'est pas normal. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Et pourquoi on doit se purifier? Parce que Dieu a un but là. il est dit juste un peu avant, nous savons, mais nous juste au verset 2, nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Alors le but suprême de Dieu, en faisant de nous ses enfants, est de nous rendre semblables à l'image de son Fils. Ne l'oublions pas. Voilà le but. Si on doit se purifier, il y a un but. Pas seulement de se purifier de toutes ces impuretés, ces scories, dans notre mauvais caractère, notre comportement. Mais ça, c'est le côté négatif. Mais le côté positif, c'est être semblable à Jésus.
De plus en plus.
Le but suprême de Dieu pour ses enfants, ce n'est pas la richesse, ce n'est même pas la bénédiction, c'est de nous rendre semblables à Jésus. Et à Romains 8, 29, nous sommes prédestinés pour être semblables à l'image de son Fils. Ne l'oublions pas cela. Le but suprême, ce n'est pas qu'on soit béni. Le but suprême, ce n'est pas qu'on gagne beaucoup d'argent. Le but suprême, ce n'est pas que nous soyons heureux. Ça, c'est des choses qui sont à côté.
Ou que nous soyons gentils.
Oui, n'importe. Mais le but suprême que Dieu poursuit, c'est cela qu'on doit avoir, c'est de nous rendre semblables à son Fils.
C'est ça.
Et s'il nous faut passer par certaines difficultés, eh bien, il nous faut passer par là pour comprendre certaines leçons, pour expérimenter un certain brisement. Et le Seigneur, il sait le chemin que nous devons passer. Il ne devrait y avoir dans notre vie aucun passage noir dans notre vie. Dire, ah là, ce passage-là, en parenthèse, je ne veux plus le voir. Ça, il ne faut pas qu'il y ait de passage. D'entre parenthèses noires. S'il y a un passage noir dans ta vie, tu vas vivre dans le noir, tôt ou tard. C'est pour ça que tu es dans l'obscurité. Il ne faut pas qu'il y ait de passage noir. Puisque Dieu est là, il permet tout dans ta vie. Il dirige les rênes de ta vie. Si tu lui as confié ta vie, c'est comme si tu lui disais, là, tu es merveilleux Seigneur, mais là, il y a une petite parenthèse, là, tu t'es trompé. Là, tu t'es trompé, là, ça ne va pas. Là, il y a un passage noir, on n'en parle pas, Seigneur. Comment on n'en parle pas? Je veux justement qu'on en parle. Parce que ce passage noir qui obscurcit ta vie spirituelle, qui t'assombrit, tu l'aurais. C'est pour ça que tu traînes, tu vas un peu, tu tapes contre le mur, tu fais des expériences malheureuses parce que il y a une partie sombre encore en toi. Le but, c'est de nous rendre semblables, ne l'oublions pas, de purifier notre mauvais caractère, d'accord, mais en vue de nous rendre semblables. Et si nous sortons d'une épreuve en ayant le sentiment d'avoir obéi au Seigneur, d'avoir reflété le caractère du Seigneur, ça c'est la plus grande victoire. Ça veut dire que dans ce domaine-là, on a réussi l'examen. Mais si on ressort, si l'épreuve s'arrête et qu'on ressort encore plus aigri qu'avant, alors là, on n'a rien appris. La tragédie, c'est que ça va recommencer. Et quand ça recommence, c'est encore pire. Ça ne s'arrange pas. On pense que le temps arrange les choses. Le temps n'arrange rien. Au contraire, le temps aggrave les choses. Plus tôt nous apprenons, mieux c'est. Sois pur. Mais celui qui a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Voyez-vous, le but que le Seigneur veut atteindre dans notre vie maintenant, en attendant le retour et toutes ces épreuves, toutes ces choses qui sont là, nous devons tirer le meilleur parti. Et dire là, dans cette épreuve qui est noire, eh bien, il y a une leçon que je n'ai pas encore apprise, je veux l'apprendre. Là, j'ai fermé la porte, mais c'est ça, ça va plus. Ça. Il faut maintenant que j'apprenne la leçon. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre là? Nous, on retient la chose, qu'est-ce que l'autre doit apprendre? Non, c'est pas ce que l'autre doit apprendre, c'est ce que moi, je dois apprendre. Ce que l'autre doit apprendre, ça c'est l'affaire du Seigneur et l'affaire de l'autre. Mais ce que nous devons apprendre, ça, si nous ne le faisons pas, le Seigneur, c'est un bon professeur. Il y reviendra jusqu'à ce que nous apprenions la leçon. Et ça peut durer des années. Ça peut durer des années et des années. Parce qu'on ne pourra pas aller plus loin avant qu'on ait appris cette leçon-là. C'est comme ça. Alors donc, veillons. Quiconque a cette espérance se purifie. Seigneur, que ton image paraisse de plus en plus en moi et qu'à travers une épreuve, je ressorte plus pur, plus fort, plus équipé et te ressemblant davantage. Ensuite, cinquième attitude, dans Luc 21, 28, Luc 21-28, une cinquième attitude dans ces temps de proximité de la fin des temps. Verset 25 déjà. Il y aura des signes dans le ciel, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses arriveront, quand ces jours commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. C'est bien ça? Vous avez ce verset 21, hein? 21, 20, et... Alors, le passage, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Alors ici, on va souligner le verbe redresser, redressez-vous, l'expression, qui veut dire « sois courageux ». Dans le texte grec, c'est « sois courageux ». Parce qu'il y aura de l'angoisse, il y aura toutes sortes de choses, dans l'attente de ce qui va survenir, de l'angoisse parmi les nations qui ne sauront que faire. Et on vit ces temps-là, hein, partout, ils ne savent pas quoi faire. Les autorités, les présidents, les rois, n'importe qui, ils ne savent pas quoi faire. Ils font quelque chose, mais c'est tout à refaire ou à défaire. Alors, ils font beaucoup de choses. Ils signent beaucoup de traités, mais c'est toujours à recommencer. Mais en attendant, ils dépensent des millions et des milliards. Et le monde s'appauvrit. Et c'est comme ça que, voilà, on en arrive au point où ça va ouvrir la porte à l'Antéchrist. Et là, au sein de tous ces événements, quand ces choses commenceront à arriver... redressez-vous, levez les yeux. Donc il nous faut être courageux, il ne faut pas nous laisser emporter par l'angoisse de ce monde. Ils n'ont pas d'angoisse, mais nous avons une espérance. Il nous faut garder cette espérance et ne pas trop nous alourdir sur ce qui se passe aussi. Parce que ça ne changera pas, au contraire. Il ne faut pas trop remplir ça dans sa tête. Du matin au soir, oh, tu as vu ceci, tu as vu ça, tu as vu ça. Bon, il nous faut savoir ce qui se passe un peu, mais il ne faut pas remplir notre tête de ça. Ce qu'il nous faut en nous, c'est cette espérance pour pouvoir être un témoin ici. Et dire encore qu'il y a une espérance à ceux qui veulent encore nous écouter. Donc, il nous faut être courageux. Parce que le vent est contraire, la vague est contraire. Et tout va dans une même direction. Et nous, on va dans une autre direction.
Opposée.
La direction opposée. Il nous faut être courageux. Dans ces temps de la fin, il faut du courage. Parce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, est en contradiction avec ce que le monde dit ou fait. Mais il ne faut pas avoir peur de le dire, il faut le dire. Parce qu'autrement, on ne sert plus à rien. Le sel a perdu sa saveur.
Avec le sel, la lumière.
On n'a plus de lumière, on n'a plus rien du tout. La lumière a perdu sa clarté. Donc, il nous faut être courageux. L'angoisse va en augmentant. Mais nous, il faut que notre paix aille en augmentant. En nous attardant avec le Seigneur, en recherchant sa face, en nous tenant devant lui de plus en plus, en méditant sa parole, en nous nourrissant de cette parole, c'est cela qui nous tiendra. Sinon, nous ne tiendrons pas. Sinon, vous vous rendez compte? Il y aura des signes dans le ciel, la lune, les étoiles, et sur la terre, de l'angoisse chez les nations qui ne seront qu'en fer, au bruit de la mer, des flots, des hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Vous vous rendez compte? La terreur, l'angoisse. Et on va vivre ces temps-là. Ça va aller de plus en plus. Quand ces choses commenceront à arriver, ce qu'on voit maintenant, c'est que le commencement encore. On n'en est pas au bout. Si on panique dès maintenant, on est fichu. Il nous faut savoir une fois pour toutes que ce monde va à sa dérive et qu'on est là comme la lumière, comme le sel, encore pour sauver quelques-uns et être des témoins. Et puis le reste, ça c'est l'affaire du Seigneur. Soyons courageux. Il nous faut du courage parce que on avance à contre-courant. À contre-courant. Et comme je l'avais dit une fois, pour savoir si nous sommes vraiment vivants, à contre-courant, il n'y a que les poissons vivants qui montent à contre-courant. Un poisson mort, lui, il suit le courant. Mais il n'y a que le poisson vivant qui va à contre-courant et qui remonte l'eau. Si nous nous laissons emporter, c'est peut-être un signe que notre foi est morte et il nous faut faire attention. Nous ne devons pas avoir une foi morte, mais une foi vivante, comme ce poisson, ces truites ou autres, qui remontent. Les saumons qui recherchent, qui vont à la source. Et, vous rendez compte des obstacles qu'ils franchissent? Si tu suis les autres, rien ne prouve que tu es vivant. Mais si tu vas à l'encontre, en étant dans l'opposition, et que tu avances quand même, là, tu montres que tu es vivant. Et pour, sixièmement, Matthieu 24, 44. À partir du verset 40, déjà, à l'heure de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez, donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Oui, la pensée revient ici. Sachez le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, oui, encore un autre, c'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêt. Voilà. Donc, sixième attitude, sois prêt. Tenez-vous prêt, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Soyez prêt. Pourquoi? Parce qu'il y aura un élément de surprise et d'étonnement pour les fidèles lors de l'enlèvement. Parce qu'il y aura un élément de surprise, d'étonnement. Et c'est pourquoi il nous faut être prêt. C'est très important. On ne sait pas quand il va venir. Ça va être la grande surprise. C'est pourquoi il nous faut être prêts. Chaque jour. Et pour terminer, 1 Thessaloniciens 4, 18. L'apôtre est en train de parler au verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Vous voyez, on est toujours dans les fins de la temps, dans les temps de la fin, dans les signes de la fin des temps. Car nous croyons que Jésus est mort, et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et le verset 18, c'est celui-là. Qu'est-ce qu'il est dit? Consolez-vous. Soulignez bien cela. Consolez-vous. Donc, les uns les autres par ces paroles. Donc, la septième attitude, soyez consolés. Consolés. Consolez-vous par ces paroles, les uns les autres. Et on pourrait traduire aussi, dans le mot consoler, il y a le mot concernant le Saint-Esprit, le paraclète. Le paraclète, dans le mot paraclète, il y a la pensée de consolation. Dans la pensée de soi consolé, il y a réconfortez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Soulagez la peine de l'un ou de l'autre. Être consolé, ça veut dire ramener le courage, l'espoir, redonner des forces morales et spirituelles. Revigorer, ranimer, stimuler. Voilà tout ce que le Seigneur veut que nous puissions faire en vue de cet enlèvement qui vient. C'est une parole extraordinaire, c'est l'enlèvement. Et c'est une vérité extraordinaire. C'est pourquoi il y a de quoi nous consoler dans cette vérité-là, dans cette attente-là. Il y a de quoi nous consoler. Et trouvons notre consolation là-dedans, dans cette vérité, dans de l'enlèvement. C'est important. Le monde n'a aucune consolation. C'est la désolation au contraire. Mais le chrétien, lui, a une consolation. Consolation.
Amen.
Et nous pouvons, merci, nous avons une espérance. Merci, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà. Comme si Paul voulait dire, mais tout cela, il va y arriver des choses. Voilà. Mais vous, voilà, c'est pas, vous n'êtes pas, faites pas partie de tout cela. Voilà. Vous avez une espérance glorieuse. Mm-hmm. Consolez-vous.
Amen.
Quelle vérité glorieuse ce jour où les morts en Christ ressusciteront.
Voilà.
Voilà. Et ceux qui sont vivants, et ceux qui vont vivants ensuite, seront enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est une vérité merveilleuse. Mais un jour, nous verrons cela de nos yeux. Un jour, vos yeux, mes yeux verront cela. Un jour. Mais c'est pourquoi il nous faut être fermes, fidèles et persévérer, quelles que soient les circonstances, qui iront en s'aggravant. C'est le commencement des épreuves. Et on vit le commencement des choses, on n'en est pas au bout. Mais nous pouvons, le Seigneur nous a équipés, il nous a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir tenir ferme, et être une lumière et le sel de la terre. Que le Seigneur nous donne d'avoir ainsi ses attitudes. Et comme il l'a dit, ce que je dis, je vous le dis à tous. Veillez et priez. Que nous puissions entendre et mettre en pratique cette parole, afin que nous soyons debout lorsque Jésus reviendra. Car,
amen.
Levons les yeux, car notre délivrance approche.
Amen.
Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole.
Alléluia.
Nous voulons que ces paroles soient gravées en nous,
alléluia,
en moi, gravées Seigneur,
oui,
afin que personne ne puisse les enlever, les changer, les modifier.
Mm-hmm.
C'est tout ce que tu as mis dans le cœur de tes enfants, tout ce que tu as promis aussi. Tu as promis de grandes choses pour tes enfants,
amen,
pour ton épouse.
Mm-hmm.
Seigneur, notre espérance est glorieuse.
Oh, oui,
nous voulons nous consoler par de telles paroles, de telles fêtes. Nous voici, Seigneur, nous voulons t'obéir et faire toute ta volonté, dès maintenant et chaque jour de notre vie. Amen.
Amen, amen.
Merci.
Et en attendant que le Seigneur vienne nous enlever, Seigneur, nous donne du courage pour la suite de notre pèlerinage ici. Et c'est merveilleux les paroles que le Seigneur m'a données parce qu'elles font juste suite à ce que tu viens de dire. Avec le verset du psaume 137, pour une personne au milieu de nous qui attend que les promesses du Seigneur s'accomplissent pour elle. Voici ce que le Seigneur te dit. Compte sur ton Seigneur, car il est bon. C'est une autre version que celle que vous avez peut-être. Compte sur ton Seigneur, car il est bon. Il a mille moyens de te délivrer. J'ai trouvé ça super, cette version-là. Il a mille moyens de te délivrer. Alors, pour cette personne au milieu de nous qui attend une promesse que le Seigneur doit accomplir dans sa vie, compte sur ton Seigneur, car il est bon. Il a mille moyens de te délivrer. En me faisant confiance, tu sauras qu'en dépit des circonstances, des apparences, tout est bien pour toi. Je voudrais t'apprendre à t'attendre à moi, sans forcément avoir de signes ou d'indications que je suis à l'œuvre. Je suis celui qui tient ses promesses. Chacun de mes délais pour les accomplir est parfaitement réglé par ma main puissante. Tes longues périodes d'attente pour voir mes promesses s'accomplir pour toi sont autant de raisons pour toi de prier davantage et toujours plus. Et c'est l'occasion pour moi d'établir en toi ces qualités impérissables que sont l'humilité, la patience, la paix et le courage que je voudrais voir grandir en toi. Prends courage, mon enfant, si ma réponse tarde à venir, attends-la, car elle viendra certainement. Heureux celui à qui le Dieu fort est en aide et dont l'attente est en l'Éternel son Dieu. C'est aussi, ça vient dans cette même ce même esprit, je ne savais pas sur quoi il allait parler, mais c'est tout à fait le même esprit. Être dans l'attente en l'Éternel notre Dieu, que ce soit pour l'enlèvement ou pour nos situations personnelles. Et puis, une autre parole pour nous tous, qui nous encourage aussi, que le Seigneur veut nous dire à tous, dans ces temps difficiles justement, « Mes enfants, je prête toujours mon oreille à votre prière et suis toujours attentif à vos supplications. Au jour de votre détresse, invoquez-moi et je serai toujours là pour vous répondre et vous secourir. Je suis près de vous toutes les fois que vous m'invoquez. Je suis et demeure votre grand libérateur. Au travers de toutes les Écritures, vous voyez ma main agir en faveur de mes enfants, de mes prophètes et de mes enfants, de mon peuple qui m'ont invoqué. Je suis encore le même, je ne change pas. Ce que j'ai fait pour eux tous, toutes les générations, tous les peuples, tous les chrétiens, ce que j'ai fait pour eux tous, je le fais encore aujourd'hui pour chacun de mes enfants. Je suis un Père miséricordieux et plein de grâce pour ceux que j'aime d'un amour éternel. Seigneur, combien nous voulons te remercier. Tu es notre grand libérateur, Seigneur, notre grand sauveur, et nous te limitons toujours. Combien cela doit attrister ton cœur, Seigneur. Mais néanmoins, tu restes le même, toi. Tu ne changes pas, malgré nos faiblesses, nos découragements, notre manque de foi, notre manque de confiance en toi. Seigneur, pardon pour tout cela. Nous voulons changer, nous voulons nous améliorer, nous voulons grandir dans notre foi et croire et te faire toujours plus confiance et croire en tes promesses toujours mieux et toujours plus. Seigneur, nous voici. Nous attendons, c'est vrai, le grand événement de l'enlèvement. Mais en attendant, tu nous donneras aussi la force de marcher encore et toujours dans l'obéissance et dans l'attente de l'accomplissement de tes promesses qui sont oui et amen. Voici, je viens bientôt, tu as dit, et tu vas venir bientôt. Et tu n'es pas un, tu as aussi dit que tu n'étais pas un homme pour mentir, un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu as promis, tu l'accomplis. Seigneur, loué sois-tu, Seigneur. Merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. Merci de nous avoir parlé de mille et une façons pour ce message aussi. Merci, Seigneur, pour ta présence si glorieuse, dans laquelle nous serons bientôt. Quelle espérance, Seigneur! Quelle gloire nous attend auprès de toi! Nous voulons lever notre tête, être courageux et aller de l'avant, avec la force que tu nous donneras jour après jour, en sachant que tu renouvelles tes bontés pour nous chaque matin. Chaque matin, tu es là. Chaque matin, tu nous écoutes. Chaque nuit, tu veilles sur nous. Comment pourrions-nous douter de ta providence, de ton amour, de ta patience à notre égard, de ta miséricorde, de tes grâces, tes multiples grâces. Sois loué, Seigneur, adoré, béni, Seigneur. Nous t'aimons encore et toujours. Nous voulons rester à tes pieds, te faire confiance en toutes choses, Seigneur. Amen.